Dans Juges, chapitre 16, on commence au verset 4 de nouveau. Juges 16, verset 4. Donc c'est l'apogée de l'histoire de Samson, quoi que ce soit aussi sa fin. Et en même temps, c'était aussi le point le plus bas qu'on va voir tantôt. « Il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, et son nom était Delila. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, persuade-le et vois en quoi consiste sa grande force et comment nous pourrions le vaincre et le lier pour l'humilier et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Et Delila dit à Samson, déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force et avec quoi tu pourrais être lié pour t'humilier. Et Samson lui dit, si on me liait avec cette cordelette fraîche, qui ne fussent pas desséchés, alors je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. Et les princes des Philistins lui apportèrent sept cordelettes fraîches, qui n'étaient pas desséchées, et elle le lia avec ses cordelettes. Et des hommes embusqués étaient chez elle dans la chambre, et elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il rompit les cordelettes comme se rend une ficelle d'étoupe lorsqu'elle sent le feu, et sa force ne fut pas découverte. Et Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié. » Et il lui dit, « Si on me liait bien avec des cordes neuves, dont on n'aurait fait aucun usage, alors je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Et Delila prit des cordes neuves et le lia avec ses cordes et lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et les hommes embusqués étaient dans la chambre. Et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Et Delila dit à Samson, « Jusqu'ici tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi tu pourrais être lié. » Il lui dit, « Si tu tissais sept tresses de ma tête avec le fil à tisser, et elle les fixa avec la cheville, il lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le fil. Et elle lui dit, « Comment dis-tu, je t'aime, et ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi ces trois fois, et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. » Il arriva comme elle le tourmentait par ses paroles tous les jours, et le pressait que son âme en fût ennuyée jusqu'à la mort. Et il lui déclara tout ce qui était dans son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi, et je deviendrais faible, et je serais comme tous les hommes. » Et Delila vit qu'il lui avait déclaré tout ce qui était dans son cœur. Elle envoya et appela les princes des Philistins, disant, « Montez cette fois, car il m'a déclaré tout ce qui est dans son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux et appela un homme et rasa les sept tresses de sa tête. Et elle commença de l'humilier et sa force se retira de lui. Et elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en irai comme les autres fois, je me dégagerai. » Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Et il tournait la meule dans la maison des prisonniers. Et les cheveux de sa tête commencèrent à croître après qu'il eut été rasé. Et les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir et dire, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et le peuple vit, et ils louèrent leur dieu, car ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, et le dévastateur de notre pays, et celui qui multipliait nos tués. » Il arriva, comme ils avaient le cœur joyeux, qu'ils dirent, « Appelez Samson, et qu'il nous amuse. » Ils appelèrent Samson de la maison des prisonniers, et il joua devant eux, et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au garçon qui le tenait par la main, « Laisse-moi, et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles la maison est assise, et que je m'y appuie. » Et la maison était remplie d'hommes et de femmes, et tous les princes des Philistins étaient là, et sur le toit, environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Et Samson cria à l'Éternel et dit, « Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson saisit les deux colonnes du milieu sur lesquelles la maison était assise, et il s'appuya sur elles, l'une de sa main droite et l'autre de sa main gauche. Et Samson dit que mon âme meurt avec les Philistins. Et il se pencha avec force, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Et ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Ils le remontèrent et l'enterrèrent entre Tsora et Eshtaol dans le sépulcre de Manoa, son père. Et il avait jugé Israël 20 ans. Dans la prière, nous avons pensé à ce verset dans 1 Corinthiens 10 que toutes ces histoires nous ont été données pour notre instruction. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que ces histoires sont pour nous instruire, mais aussi pour nous corriger. Et 2 Timothée 3 nous dit, nous parle de quatre choses. C'est une présentation des pensées de Dieu, une présentation objective des pensées de Dieu. Ensuite, le besoin d'être confirmé, d'être établi dans cette vérité-là. Ensuite, le besoin de la correction, parce que nous avons besoin de la correction, de la discipline. Mais aussi, le quatrième mot là réfère à la pensée de Dieu, que la vérité soit en nous, pour ainsi dire. Et ce que j'aimerais suggérer, par de tels chapitres, Dieu nous instruit, il nous présente sa pensée, il confirme sa pensée en nous, il nous corrige, mais il veut aussi reproduire quelque chose de Christ en nous. Donc dans ce sens-là, nous pouvons utiliser toute la parole de Dieu, parce que le but de Dieu est vraiment de nous établir dans la vérité, afin que nous soyons des outils pour lui, maintenant, dans ce conflit spirituel. Nous voyons dans ce livre les influences du monde au milieu du peuple de Dieu, et vu dans leur plus haute position. On ne voit pas le peuple ici dans le désert. On ne voit pas même le peuple en Égypte, dans l'esclavage. On ne le voit pas dans les exercices du désert avec tous les besoins. Non, on le voit dans le pays promis, donc la plus haute position. Et nous voyons que dans l'histoire de l'Église aussi, la meilleure chose a été corrompue le plus vite. Et ainsi, nous voyons dans ce livre de Juges vraiment que ces choses que Dieu leur a confiées ont été perdues. Seulement, il y a un reste qui garde ces choses dans leur cœur, comme on a vu dans la mère de Samson, par exemple. On a vu Déborah, une mère en Israël. Donc, il y a des individus qui gardent les choses de Dieu dans leur cœur, où c'est vraiment une réalité. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. Ici, on a vu que dans Samson, toute l'énergie de Dieu est concentrée dans une seule personne. Et je pense de nouveau à l'apôtre Paul, là, en prison, là, abandonné de tous ceux qui étaient en Asie. Toute l'énergie de Dieu était concentrée dans un seul homme, presque. Mais la même énergie est disponible pour vous et moi. C'est ça qu'il dit à Timothée. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus qui est dans la gloire, avec toutes les ressources qui sont en lui, toutes ces ressources sont disponibles pour le croyant, pour vous et moi. Donc, ce qu'on peut apprendre aussi de ces chapitres, les ressources qui étaient disponibles pour Samson sont les mêmes ressources qui sont disponibles pour nous. Mais les tentations sont aussi les mêmes. On est engagé dans un conflit, comme on a vu dans Éphésiens 6. Il faut vraiment saisir la place d'Éphésiens 6. Éphésiens 6 nous parle d'un conflit qui est le résultat de notre position dans le pays. Donc, en autre mot, ce ne sont pas les conflits en Égypte pour être délivré de l'esclavage du monde. Ce n'est pas le conflit dans le désert, toutes sortes de conflits qu'on voit dans le désert. Ce n'est pas même le conflit pour entrer dans le pays ou pour occuper le pays. C'est le conflit pour garder la jouissance de ces bénédictions du pays. Et c'est le conflit aussi qui est là parce que l'ennemi veut attaquer le peuple de Dieu pour ôter la joie de ses bénédictions, pour enlever le fruit. Souvent, on a vu que le fruit du pays était ôté dans les jours de Gédéon. D'autres exemples, on pourrait donner. Parce que l'ennemi ne veut pas que le peuple de Dieu jouisse des bénédictions du pays. Si on lit Deutéronome 8, par exemple, on a vraiment une bonne pensée. C'est quoi le pays? Mais Dieu nous donne ses bénédictions pour que nous soyons des adorateurs. Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Donc, tout est à notre disposition. Mais l'ennemi veut, il vient ensuite pour enlever la jouissance de ses bénédictions. C'est ça le conflit dans Éphésiens 6. Et c'est là où nous avons des parallèles avec les juges. Donc, on voit dans Éphésiens 6, comment nous pouvons être préparés pour le conflit. S'il y a une pratique, une justice pratique, s'il y a une foi réelle, si la parole de Dieu est une réalité pour nous, pas seulement une connaissance théorique, mais une réalité, toutes ces prérequisites sont données dans Éphésiens 6. Et ça nous montre que c'est bien pratique. Et puis, je pense, ce chapitre qu'on a devant nous, aide-nous à jouir vraiment des pensées de Dieu. Dieu veut nous donner des illustrations pour nous aider à saisir quel est le conflit et comment on peut être des vainqueurs. Hein? Dieu veut toujours que nous soyons des vainqueurs. Et on pourrait lire ce livre de deux façons. On pourrait lire ce livre-là puis être très découragé à la fin parce que tout va mal. Ou bien on peut lire ce livre-là puis être très encouragé parce qu'on voit les remèdes de Dieu quand même, néanmoins. On voit qu'en Dieu sont toutes nos ressources. Même à l'histoire, à la fin de cette histoire triste et tragique presque, on pourrait dire tout va mal, tout a manqué, c'est fini maintenant. Mais il faut voir Dieu dans tout cela. Quelles sont nos ressources en Dieu et dans le Seigneur Jésus qui est dans la gloire pour nous. Je me rappelle comme jeune garçon et puis mes jeunes frères aussi, ils ont aimé beaucoup ces histoires de juges. On avait un privilège spécial. Pour notre anniversaire, on pouvait choisir un chapitre de la Bible. On avait toujours choisi les chapitres de Samson. On pensait que peut-être que c'était un géant. Non, ce n'était pas un géant. C'était un homme comme vous et moi. Sa force était dans l'esprit de Dieu. C'est ça la différence. Il n'était pas nécessairement un bodybuilder. Il était un homme comme tous les autres. Il n'est pas comme Goliath. Mais la puissance de Dieu était en lui, était disponible. Et on a vu qu'il était, lorsqu'il était jeune, il était déjà il était poussé par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, c'était l'Esprit de l'Éternel. Dieu a aimé son peuple. Et ainsi pour nous, Dieu le Père et le Seigneur Jésus dans la gloire ont une relation très spéciale par l'Esprit qui est en nous, avec le peuple de Dieu. Et dans cette relation, ils veulent nous instruire et faire grandir. C'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a saisi dans ces conflits pour être un vainqueur. Et ainsi, on pourrait dire l'Esprit du Seigneur Jésus, comme 2 Timothée le montre, le Seigneur Jésus dans la gloire, son Esprit, et sa parole aussi, bien entendu, veulent prendre le contrôle dans nos vies, nous diriger. Maintenant, on a vu qu'il y avait 3 grandes tentations pour Samson. La tentation des choses naturelles, dans le chapitre 14. Les choses naturelles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Par contre, il se laissait diriger par les Philistins en rapport avec les choses naturelles. Donc, ici, le mariage, le contexte du mariage. Et puis, le résultat était qu'il a expérimenté un désappointement. Tout était pour rien. À la fin du chapitre 14, on voit que sa femme a été donnée à quelqu'un d'autre. Dans le chapitre 15, nous avons vu comment le Seigneur s'est servi de Samson malgré ses manques, mais on a vu ce mélange, la puissance de Dieu d'un côté et les manques de Samson d'un autre côté. On a vu les ressources qu'il a comme Nazaréen dans le rocher et aussi dans l'eau qui sort du rocher, des ressources qui sont aussi à notre disposition. Mais dans le chapitre 16, on voit, après la victoire du chapitre 15, on voit une chute. Et on se demande pourquoi cette chute-là était donc plus grave que le chapitre 14, parce qu'il n'a pas jugé, il ne s'est pas jugé dans la lumière de Dieu. Et là, on voit que ça va de pire en pire. Un chemin de déclin pas toujours comme ça, dessin, un chemin de déclin ne monte jamais. Et là, on a pensé à la convoitise de la chair. Au début du chapitre 16, il était dirigé par la vue, mais la vue contrôlée par la convoitise charnelle. Comme 2 Pierre 1 nous parle du monde qui est contrôlé vraiment par les convoitises. C'est ça qu'on voit ici. Donc un homme de Dieu, un instrument dans la main de Dieu, au lieu d'être contrôlé, au lieu d'être saisi par l'Esprit de l'Éternel, il est saisi maintenant par une convoitise charnelle. Okay? C'est la chute. Et même après ça, okay, il y a encore un élément de force en lui, évident, mais ce n'est pas l'Esprit qui l'a saisi là, dans cette situation-là. Un croyant qui tombe, qui chute, a encore la force, aussi une certaine force spirituelle en lui-même. Mais dans un tel état, dans une telle condition, l'Esprit de Dieu ne peut pas s'identifier avec lui. Donc on ne lit rien là de l'Esprit de l'Éternel. Après ça, on espérait qu'il aurait jugé ce mal dans sa vie. Non, il faut que ça descende encore plus bas. Et c'est ça qu'on voit maintenant dans l'histoire qui suit. On a mentionné déjà le verset 4, ce progrès du mal, ça mène maintenant vraiment à la vraie catastrophe. Et vous voyez aussi le parallèle avec l'histoire de l'Église, là. Garde tout le temps ça en mémoire. C'est pas Thyatire ici. On parle de Philadelphie. Et là aussi, il y a la catastrophe. C'est pas seulement Thyatire ou Sardes. Philadelphie, là, on a aussi la catastrophe. Et on voit dans le verset 20, on va revenir à ça, Dieu voulant. Je ne savais pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'était vraiment la catastrophe parce que Philadelphie était caractérisée par ses privilèges d'avoir gardé la parole de Dieu, de ne pas avoir renié le nom du Seigneur, garder la parole de sa patience aussi, c'est maintenant tout parti. Donc il y a des parallèles avec l'histoire de l'Église, mais aussi des leçons bien pratiques pour nous. Le progrès du mal, j'ai une référence ici, je vais juste vérifier dans Luc 16, je vais juste lire le verset là. Verset 13, Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il arrivera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Ou le maman, ou quoi que ce soit. On voit le même principe dans 1 Jean 5, verset 21. On l'a mentionné déjà en rapport avec le livre des juges. « Enfin, gardez-vous des idoles. » On a vu la fornication. La parole de Dieu nous dit « Fuyez de la fornication. » La parole de Dieu nous dit « Fuyez de l'idolâtrie. » Et maintenant, on voit que Samson s'embarque dans tout cela. Et puis la parole de Dieu dit « Ok, tu es un serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas et servir Dieu et servir le diable. » Parce qu'il faut bien réaliser que Delila était sous le contrôle du diable d'une façon réelle. C'est là les influences sataniques. En étudiant le livre de Josué, vous pouvez remarquer que les nations qui étaient dans le peuple promis, dans le pays promis, que ces rois-là représentent les forces démoniaques. Dans les lieux célestes, comme j'ai mentionné Éphésiens 6, on les voit tous là. Et aussi, les 5 princes des Philistins avaient une place là. Ce n'est pas toutes les forces du mal qui sont là, mais les 5 princes des Philistins représentent l'élément philistin en rapport avec cette influence démoniaque. Et nous avons vu au début du chapitre 13 que c'est vraiment un danger très grand. Je pense que le danger philistin est le danger le plus grand dans l'histoire de l'Église. Le danger philistin est plus grand que le danger de ce roi qu'on a vu au début des juges, qui est venu de loin. Même ce danger est plus grand que Moab, ou que Ammon, ou les autres nations. Il faut vraiment réaliser ça. Ce danger est beaucoup plus grand parce que ces gens sont dans le pays. Ils ont la même position que le peuple de Dieu. Ils sont, pour ainsi dire, au milieu de nous. Et si on ne veille pas, ils sont en nous aussi. C'est ça le point. Donc, on a vu plusieurs aspects de cette influence philistine. Mais ici, on voit aussi que cet élément est contrôlé par les forces du diable immédiatement. Ça ne semble pas au chapitre 14 ou 15, mais ici, ça devient évident. Par le fait que cette femme se lie dans un complot. Elle entre dans un complot, vraiment, avec les 5 princes des Philistins. Pourquoi je dis 5? Parce qu'on voit ça un peu plus loin que c'en était 5. On va revenir à ça. Donc ici, c'est le comble du mal, vraiment. Et le danger le plus grand. Et on voit déjà le fait que Samson entre la vallée de Sorek l'aurait dû avertir. On voit déjà là, il est aveuglé. Vous voyez, la vue de ses yeux était là. Il avait la vue physique. Et puis, il s'est laissé séduire par la vue physique. Il s'est laissé contrôler par la vue physique et ses yeux spirituels étaient fermés. Plus tard, lorsque ses yeux physiques lui étaient ôtés, on voit qu'il a plus d'intelligence spirituelle. C'est remarquable. S'il n'avait pas été aveugle spirituellement, là, il serait sorti de cette vallée-là. D'abord, la vallée qui nous parle de la descente. Deuxièmement, le nom qui nous parle des vignes qui étaient là. Un lieu que le Nazaréen devrait vraiment éviter pour ne pas être influencé par le vin, comme nombre 6 le mentionne déjà. Deuxièmement, il se laisse prendre par cette femme, une influence, comme on a vu, tendre, subtile, mais satanique, en rapport avec le lien qu'elle avait avec ses princes. Donc, il pourrait être averti, mais à cause du manque de jugement de soi-même, il est comme aveugle. C'est donc une leçon pour nous aussi, si on ne se juge pas, ça va aller de pire en pire. Puis notre jugement sera plus là, on sera aveuglé spirituellement. Donc on voit ici vraiment une combination de plusieurs forces. Hein, les Philistins qui se servent de cette femme avec son habileté, sa façon de faire pour séduire et pour contrôler Samson. C'est très remarquable. Maintenant, on a déjà parlé du mystère du Nazaréen. Le Nazaréen, vous voyez, avait comme un secret entre Dieu et lui, n'est-ce pas? On a vu ça chapitre 13 à la fin, on a vu ça chapitre 14, et là, Samson a manqué, a gardé le secret. Il a trafiqué, pour ainsi dire, avec son secret dans ces jours du festin. Et maintenant, ça va encore aller plus loin. Vous voyez, l'ennemi attaque la chose la plus précieuse. Si nous avons quelque chose qui nous caractérise le plus, comme pour donner un exemple, les croyants du siècle passé qui ont recouvert la vérité de l'unité du corps, c'est exactement ce point-là que l'ennemi a attaqué. Il n'a pas attaqué d'autres choses. La chose la plus importante, il a attaqué. Genèse 2 ou 3, par exemple, l'ennemi attaque la chose essentielle en rapport avec l'obéissance. Il n'a pas essayé d'attaquer Adam et Ève par toutes sortes d'autres moyens. Il attaque la chose vitale et essentielle. Satan sait ce qu'il fait. Il ne va pas faire un détour, là. Peut-être il va faire un détour, mais son but, son target, sera toujours la chose essentielle. Ici, la chose essentielle, c'est le secret entre le Nazaréen et son Dieu. Et l'ennemi veut contrôler même ce secret-là. Donc, l'ennemi ne le sait pas, il va essayer de le trouver. Pour ensuite avoir le contrôle sur Samson. Pour ensuite l'enlever pour qu'il ne puisse pas être une influence bénéfique pour le peuple de Dieu. C'est ça la ruse de l'ennemi. Donc, nous avons aussi un mystère. 1 Timothée 3, verset 16, parle de ce mystère qui a été révélé et nous pouvons jouir de ce mystère. Et ensuite, on pourrait dire, on a beaucoup de mystères. Mais le mystère essentiel est vraiment la communion avec Dieu. Que Dieu qui est dans la gloire, le Seigneur Jésus qui est dans la gloire, habite en nous et notre vie. Et comment garder ce secret-là? Comment jouir de ce secret-là? Dans la dépendance. On a vu le Nazaréen était caractérisé par les longs cheveux. C'était un signe de sa dépendance. C'était aussi un déshonneur. La dépendance du Seigneur est un déshonneur dans ce monde, parce que dans ce monde, tout le monde veut faire sa propre volonté. Si moi je dis, je ne peux pas faire ça parce que le Seigneur ne veut pas que je le fasse. Pour un incrédule, c'est ridicule ça. You are your own boss. Tu es comme l'avortement, par exemple. Contrôle ton propre corps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en contrôle. Non, pour le croyant, c'est le Seigneur qui est en contrôle. Donc, ce secret-là, l'ennemi veut enlever ça pour ensuite avoir le contrôle sur nous. C'est ça le point. Si nous perdons la dépendance, si nous perdons l'obéissance, c'est pour que l'ennemi puisse avoir le contrôle sur nous. C'est ça son but. Donc, ils veulent connaître ce mystère pour ensuite enlever cette grande force, parce que ça va ensemble avec cette grande force. Comment nous pouvons avoir une grande force? Parce que Dieu est là-dedans. Dieu est dans l'obéissance. C'est pour ça que l'obéissance est tellement essentielle, parce que Dieu est là. Même dans les petites choses, on dirait, c'est ridicule ça, parler de telles petites choses, Moi, je ne veux pas te suggérer qu'on doit être légaliste. Ça, ce n'est pas la pensée. Mais c'est la question de l'obéissance. Les brebis écoutent ma voix. Ça, c'est la question d'obéissance pour suivre le bon berger. Et l'ennemi, est ça. Il réalise aussi, si ce lien est brisé, là, le lien par l'obéissance est brisé, le troupeau est perdu. Donc, il va essayer ça maintenant de quatre façons. La première fois, il n'y a pas de résultat. Et de nouveau, je dis, Samson devrait être réveillé à cause de ça. Non, il ne réveille pas. La deuxième fois, non plus. La troisième fois, c'est déjà plus proche du secret, vous voyez. Si tu, verset 13, « Si tu tissais cette tresse de ma tête. » Il y a d'autres versions qui disent « Les sept tresses de ma tête. » En tout cas, c'est donc une plénitude. Il ne faut pas penser que les cheveux comme tels étaient la force. Ce n'est pas le point. Ce n'était pas de la magie. C'était le signe de sa séparation, de son nazaréat. C'était le signe de son obéissance et de sa dépendance. Et il abandonne, il va abandonner ce signe-là. Et puis c'est pour ça que Dieu l'abandonne. Okay? On va revenir à ça. Si tu tissais sept tresses de ma tête avec le fil à tisser. Donc ici, de nouveau, un mélange. On a parlé beaucoup de ce mélange-là. Ici, il permet que les fils, donc les tresses de sa tête, soient mélangées avec le tissage de Delila. Donc, nous voyons ici ce mélange qui permet à Delila de, que ses cheveux soient filés avec sa tissu qu'elle est en train de faire. Verset 14, il se réveilla de son sommeil. C'est un autre point que j'aimerais souligner. C'est un croyant endormi. Donc, ce soleil physique, littéral, a aussi une signification spirituelle. Dans Romains 13, il nous a dit de nous réveiller. Même Éphésiens 5 nous parle d'être réveillés. C'est remarquable. Les croyants qui étaient tellement dans le bien de ces bénédictions célestes, on a parlé d'Éphésiens, eux avaient besoin d'être réveillés du sommeil. Et puis, 1 Thessaloniciens 5 nous parle aussi du besoin d'être réveillés, de veiller, ne pas nous endormir. Donc, ça nous montre l'état spirituel de Samson en même temps. Mais il a encore la confiance en lui-même. Même dans une telle situation, il garde sa confiance et il arracha la cheville du tissu et le fil. Donc, j'aimerais encore souligner. Il nous a dit de nous réveiller. Même Éphésiens 5 nous parle d'être réveillés. C'est remarquable. Les croyants qui étaient tellement dans le bien de ces bénédictions célestes, on a parlé d'Éphésiens, eux avaient besoin d'être réveillés du sommeil. Et puis, 1 Thessaloniciens 5 nous parle aussi du besoin d'être réveillés, de veiller, ne pas nous endormir. Donc, ça nous montre l'état spirituel de Samson en même temps. Mais il a encore la confiance en lui-même. Même dans une telle situation, il garde sa confiance et il arracha la cheville du tissu et le fil. Donc, j'aimerais encore souligner ici la situation de Samson. C'est la dernière chance que Dieu lui donne encore de se libérer. Jean 4 nous dit que l'amitié avec le monde est vraiment l'inimitié envers Dieu. Et ce mélange ne peut pas plaire à Dieu. Les lamentations de Jérémie, il y a une remarque concernant les Nazaréens. Les Nazaréens, qui étaient blanches et pures, sont devenus noirs par l'influence, donc, idolâtre. Puis, on voit ici ce déclin, ce même déclin. Verset 15, elle lui dit, « Comment dis-tu, je t'aime, et ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi ces trois fois. » C'est comme le diable lui-même parle. Je pense à Genèse 3, comment le diable a séduit Ève d'une façon très, subtile. Et 2 Corinthiens 11 nous mentionne aussi les dangers. Comment par cette subtilité du diable, on serait séduit comme Ève. Si on perd cette simplicité. Vous voyez, Samson avait un cœur partagé. Son cœur n'était plus pur. Son cœur n'était plus dirigé vers le Seigneur. C'était partagé d'un côté pour le Seigneur, d'un autre côté pour les Philistins, pour cette femme. Donc, son cœur n'était pas pour les Philistins. Mais par ce lien avec cette femme-là, son cœur était vraiment pour les Philistins. comme résultat de cette de ce lien. Verset 16, il arriva comme elle le tourmentait. Donc on voit ici la façon dans laquelle elle a agi, un peu comme cette autre femme du chapitre 14. Il n'y a pas d'amour là. Samson, il avait un certain amour, selon le verset 4, mais cette femme, elle aimait, elle a aimé l'argent. Puis dans 1 Timothée 6, on voit que l'amour pour l'argent est la racine de tout mal. Elle l'a tourmenté, elle le pressait, que son âme en fût ennuyée jusqu'à la mort, imaginez-vous, jusqu'à la mort. Donc en autre mot, il avait le désir de mourir au lieu de rester là. Même là, il aurait encore pu se mettre en liberté. Il aurait toute la liberté de partir. Mais au lieu de ça, il avait le désir de mourir. Verset 17, il lui déclara. Donc, le secret qui était entre lui et Dieu, qui était personnel, qui n'était pour personne d'autre, il déclara ce secret maintenant à cette femme méchante. Il lui déclara tout ce qui était dans son cœur. Vous voyez, on ne peut pas déclarer notre secret aux gens de ce monde, même du monde religieux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Nous pouvons annoncer l'évangile, plutôt annoncer le jugement de Dieu qui va venir sur cette terre. Puis si une âme est touchée par ça, on peut lui présenter l'évangile. Mais un incrédule ne peut rien comprendre de la communion entre le Seigneur dans la gloire et nous. C'est un énigme pour l'incrédule. Donc, ce que Samson a fait vraiment ici, il a abandonné la communion secrète avec Dieu pour une femme qui était liée à l'ennemi, là, et qui était donc aussi un ennemi du peuple de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses ici en jeu. Hein, la communion avec Dieu et aussi le peuple de Dieu, parce que Samson était le juge du peuple de Dieu, il ne faut pas oublier ça. Il dit, car je suis Nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi. Okay, vous voyez, c'est maintenant l'essentiel. On pourrait remplacer les cordes, on pourrait remplacer les cordelettes par d'autres choses pour le lier. Mais on ne peut pas remplacer des cheveux rasés, c'est impossible. Donc, là aussi, Delilah a compris que maintenant, c'était différent. Les autres choses qu'elle a utilisées pour lier Samson, ça n'a pas été efficace. Mais en tout cas, on pourrait remplacer ça. Maintenant, elle réalise que c'est vraiment l'essentiel, parce que si Samson donne maintenant ses cheveux-là, il les perd. Il ne peut pas les avoir dans une seconde de nouveau. Donc, elle a réalisé que maintenant, c'est vraiment le secret. Il dit, ma force en irait de moi. Donc, je souligne encore une fois que la force n'était pas dans les cheveux même, mais les cheveux étaient le signe de la séparation et de la dépendance. Lui, il va abandonner maintenant cette dépendance d'une façon officielle, formelle. Moralement, il avait déjà abandonné cette dépendance, mais officiellement, il va maintenant abandonner cette dépendance et c'est pour ça que Dieu va l'abandonner. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi et je deviendrais faible. Parce que la ressource pour le peuple de Dieu était dans l'obéissance. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça le test. La ressource de Dieu était dans le Nazaréat, dans l'obéissance, dans la dépendance. Et c'est justement ça qu'il va abandonner maintenant. Je serai comme tous les hommes. Dieu veut que nous soyons différents, qu'il y ait une distinction. Ici, il serait comme tous les hommes. Pas de différence. Delilah, elle est donc vraiment la méchante femme de Proverbe 7. Et on pourrait blâmer Delilah, comme j'ai dit ce matin, on pourrait blâmer cette prostituée-là, et justement, surtout Delilah. Mais celui qui est à blâmer le plus, c'est Samson. Il faut qu'on réalise ça. Un point encore que je voulais mentionner, verset 19, « Et elle l'endormit. » Ok, on a vu verset 14, « Il se réveilla de son sommeil. » Mais ici, c'est encore pire. « Elle l'endormit. » Je pense qu'elle a utilisé l'hypnose. Ça, c'est juste une suggestion de ma part, là. Je peux pas le prouver, là. Mais il me semble qu'une telle femme était aussi contrôlée par les forces du diable et avait à sa disposition, donc, des moyens qu'un croyant n'utilise jamais. L'hypnose, d'ailleurs, c'est vraiment dangereux. Il y a bien des chrétiens qui pensent qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans, mais par l'hypnose, on ouvre la porte vraiment pour être contrôlé par le diable. Et elle appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête. Vous voyez là, il y a dit les 7 tresses de sa tête. Et elle commença de l'humilier. Donc comme les autres fois, ça nous montre le caractère de cette femme aussi. Aucun amour pour Samson. C'était l'argent qu'elle voulait avoir. Puis elle se moque de lui maintenant. Ensuite, les ennemis vont se moquer de Samson. Elle commença de l'humilier et sa force se retira de lui. Comme j'ai dit, Dieu s'était identifié encore jusqu'au dernier moment avec Samson, aussi longtemps qu'il gardait ses longs cheveux comme un signe de sa dépendance. Quoique moralement, il n'avait pas de communion vraiment avec Dieu, mais Dieu a quand même respecté cette forme aussi longtemps. Mais maintenant, le moment est venu que Dieu doit se retirer de lui. C'est comme dans Ézéchiel, vous voyez dans le temple d'Ézéchiel 9 et 10, toutes sortes d'idolâtrie, toutes sortes d'injustices et d'impuretés, comme dans la vie de Samson un peu. Mais Dieu est encore là, la gloire de Dieu est encore là. Mais à un moment donné, il va se retirer là. Ézéchiel 9 et 10. C'est comme ça que la force de Dieu, la gloire de Dieu se retire de lui maintenant, à cause de cet abandon public et officiel de la dépendance. Verset 20, il se réveilla de son sommeil. Il se dit, vous voyez de nouveau cette confiance en lui-même, ça c'est vraiment un des obstacles dans la vie de Samson. Il savait qu'il avait cette force-là, mais il ne réalisait pas souvent que ça venait de Dieu. On a vu dans chapitre 15 qu'à un moment donné, il a donné la gloire à Dieu, mais il avait toujours la tendance de se glorifier et de mettre sa confiance en lui-même. Aujourd'hui, les gens prêchent la confiance de soi, l'amour de soi, ou toutes sortes de formes de soi. L'amour de soi dans 2 Timothée 3, ça va ensemble avec les jours de la fin où nous vivons. Au lieu d'aimer Dieu, c'est l'amour de soi. La confiance de soi, l'amour de soi, ça va tout ensemble. Mais ça n'aide pas à garder la communion avec Dieu. Paul dit, Philippiens 4, je peux faire tout, hein, toutes choses, par ma propre force. C'est vrai ça? Paul dit, par celui qui me fortifie. Le Seigneur dit dans Jean 15, sans, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le secret de Philadelphie, Apocalypse 3. Vous avez peu de force, j'ai dit, à cause de la faiblesse, mais toute la force de Dieu, toute la force du Seigneur était disponible. Peu de force, mais maintenant, aucune force, à cause de cette désobéissance, même la petite force qui était là, en Philadelphie, est partie maintenant. Donc ici, on arrive à Laodicée. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le point le plus bas dans cette histoire-là, parce que historiquement, chapitre 16 termine le livre des juges, historiquement et aussi dans le sens moralement. Le point le plus bas, dans Laodicée, dans l'épître à Laodicée, le Seigneur dit, vous ne savez pas. Donc, il était pauvre et nu et tout ça, et le Seigneur dit, vous ne le savez pas même. C'est la même situation. Ils se sont glorifiés dans leur force, dans leur richesse et dans tout cela, mais exactement comme Samson l'a fait ici, mais le Seigneur n'était plus là. Dans Osée, nous voyons aussi une remarque en rapport avec les 10 tribus qui avaient introduit l'idolâtrie. Éphraïm avait des cheveux blancs, et puis Dieu dit, il ne le sait pas même. Donc c'est la même condition. Pas de connaissance de Dieu, pas de connaissance de soi-même non plus dans la lumière de Dieu. Ça représente donc vraiment Laodicée et aussi 2 Timothée 3, comme j'ai dit tantôt. Verset 21. Ok, je voulais juste souligner que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson s'était retiré de Dieu par cette désobéissance. Sa force se retira de lui parce que sa force était la force de Dieu. C'est pour ça qu'on lit ici, l'Éternel s'était retiré de lui. La force de Samson s'était retirée de lui parce que l'Éternel s'était retiré de lui, et vice-versa. Verset 21, les Philistins le saisirent. Vous voyez la différence avec les autres fois où l'Esprit de l'Éternel l'a saisi? Quelle différence! Ici, par la désobéissance, il perd tout. Et au lieu que l'Esprit puisse le saisir, ce sont les Philistins qui l'ont saisi. Et dans le gouvernement de Dieu, Dieu a permis que ses deux yeux
était crevé. On parle ici du gouvernement de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Dans Proverbe aussi, on a beaucoup de références au gouvernement de Dieu, gouvernement moral. C'est pas le gouvernement du millénium où Dieu va juger le mal tout de suite. C'est ici un gouvernement moral, comme 1 Pierre 3 l'explique. Et il donne une occasion pour que les ennemis de Dieu vont outrager le peuple de Dieu. Et c'était, comme on va voir dans la fin du chapitre, une occasion pour que les ennemis se moquent de Dieu. Ils le firent descendre. C'est la 7e fois dans l'histoire de Samson qu'on lit d'une descente. C'est toute une descente, là, de la descente vers Timna jusqu'à la descente à Gaza ici. C'est tout un cheminement. Et on dirait là, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. C'est ça la chose remarquable. Même dans une telle situation, Dieu peut intervenir. J'ai dit, par le gouvernement de Dieu, Dieu a permis que les deux jeux de Samson soient crevés. Et puis, les jeux physiques ne sont plus là, mais là, son intelligence spirituelle va fonctionner. Je pense qu'il s'est jugé lui-même là, dans cette prison-là. Il s'est vu dans la lumière de Dieu. Et il a accepté maintenant pratiquement la dépendance. Il a utilisé la force comme si c'était sa propre force. Il a utilisé la force de Dieu comme si c'était sa propre force, pas dans la dépendance. Maintenant, on lit dans le verset 22, les cheveux de sa tête commencèrent à croître. C'est un signe de vie, mais je pense aussi c'est maintenant une réalisation de la part de Samson qu'il doit être dépendant. Il est sans aide en lui-même, sans confiance en lui-même, comme jusqu'à là. Donc, il réalise qu'il est impuissant, comme l'homme dans Romains 7, impuissant, misérable, il peut rien faire de lui-même. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Dans Joël 3, on lit que les Philistins avaient même dérobé le peuple de Dieu, avaient pris les trésors du peuple de Dieu, avaient placé ça dans leur temple. Ici, on a la même pensée. Les Philistins prennent les choses de Dieu. Ils prennent ici un homme de Dieu, le dirigeant du peuple de Dieu, pour le placer dans leur temple. Et ça, c'est vraiment l'ultime de leur victoire et aussi de leur outrage, de leur arrogance, de leur fierté, de leur moquerie. Donc maintenant, Samson est sous leur contrôle et même comme un objet de mépris ou de moquerie, mis ensemble avec ce Dagon, leur dieu. On lit souvent de Dagon dans 1 Samuel 5 aussi. Mais Dieu peut pas accepter une telle compétition, vous voyez. Là aussi, dans ce point le plus bas, là, dans l'histoire d'Israël, en rapport avec l'arche, 1 Samuel 4 et 5, Dieu est intervenu. Dieu a accepté ce défi. Il l'accepte et il va agir. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Okay? La force d'Israël, la force du Nazaréen, à cause de ses manques étaient plus là, mais c'est pour ça que Dieu va intervenir maintenant, là, à ce moment le plus bas. Et Dieu va juger la fierté et l'arrogance de l'ennemi, sa moquerie. C'est souvent le cas où l'ennemi est a tellement de confiance en lui-même, c'est là où Dieu va les juger. On voit le même principe dans le livre de Josué avec les nations cananéennes. Appelez Samson, verset 25, et qu'il nous amuse. C'est un peu comme dans le monde aujourd'hui. Les gens veulent être amusés tout le temps. Et aussi, dans la chrétienté ou dans la profession chrétienne, on voit cet élément de divertissement qui devient beaucoup plus important tout le temps. Ils veulent être amusés. Donc ici, on pourrait dire, Samson est dans cette situation-là par sa propre faute. Il faut pas oublier ça. C'est sa propre faute qu'il est là. Aujourd'hui, donc on voit ici un homme sans force en lui-même, exposé à ces outrages du monde religieux qui se moque de lui. J'ai pensé aussi à l'attitude que le monde religieux a envers la puissance. Par exemple, le voile de la femme nous parle de l'obéissance. Et dans l'obéissance est notre force. Ici, l'homme de Dieu avait abandonné cette obéissance, donc il devient encore un objet de ridicule et de blasphémie de l'ennemi. Mais même dans ses jours d'obéissance, il était moqué, mais là, l'ennemi avait du respect. Ici, ils n'ont plus de respect. Donc, quelqu'un qui abandonne les principes de Dieu, le monde ne va pas le respecter plus, pas du tout. Le verset 26, « Laisse-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles la maison est assise, et que je m'y appuie. » Ici donc, c'est le dernier conflit avec les Philistins, le septième conflit. Verset 27, « La maison était remplie d'hommes et de femmes, et tous les princes des Philistins étaient là, et sur le toit, environ 3000 hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. » Donc, il faut réaliser que peut-être à peu près 8000 personnes étaient là, parce que s'il y avait 3000 personnes sur le toit, dans le temple, il y en avait beaucoup plus probablement. Mais on ne sait pas trop sûr, mais c'est juste une suggestion. Verset 28. Samson cria à l'Éternel. Je veux de nouveau rappeler ce verset de 2 Corinthiens 12. Ma grâce te suffit. C'est une des choses que l'apôtre Paul a dû apprendre. Et c'est aussi quelque chose que Samson a dû apprendre. Et pour nous, c'est la même chose. Ma grâce te suffit. Puis là, le verset continue à dire que dans ma faiblesse, c'est la puissance du Seigneur qui va me couvrir, pour ainsi dire. Là, dans la réalisation de la dépendance, de l'impuissance, c'est là où le Seigneur peut intervenir. C'est la même chose avec l'homme dans Romains 7. Il réalise son état misérable, puis ça ouvre la porte pour que l'Esprit de Dieu peut intervenir. Ici, dans cette réalisation de son impuissance, il ouvre la porte pour la force de Dieu. Verset 28, il cria, c'est la deuxième prière, la dernière prière ici de Samson, « Seigneur ». Le nom « Seigneur » nous parle de sa puissance. « Seigneur », de son autorité. Dans 2 Timothée, je fais le lien avec 2 Timothée de nouveau. C'est souvent le Seigneur qui est mentionné là. Le Seigneur, son autorité est méprisée dans ce monde christianisé. Mais pour nous, toute la force est dans ce nom du Seigneur, en respectant la relation avec lui, éternel. Souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi. Ici, c'est un homme restauré. C'est pour ça que je dis, ce chapitre termine avec un grand encouragement. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Et là où toute notre force est partie, toute notre puissance est jugée, notre propre volonté, la confiance en nous-mêmes, c'est tout parti là. Mais ça ouvre la porte pour que la puissance de Dieu peut se manifester en nous. C'est ça le secret. Une âme restaurée dans la dépendance de Dieu devient un outil puissant dans les mains de Dieu. Rien de lui. Tout de Dieu, un peu comme Philippiens aussi. Donc, il a maintenant cette intelligence spirituelle, ses yeux n'étaient plus là, mais il a une intelligence spirituelle. Éphésiens 1, verset 15 nous parle aussi de cette intelligence spirituelle qui est tellement nécessaire pour que nous puissions jouir des bénédictions du pays. Il n'y a rien là de notre puissance, de notre force. On a besoin de cette intelligence spirituelle pour jouir du pays, mais aussi pour discerner les ruses de l'ennemi et aussi pour que la puissance de Dieu puisse nous contrôler. Verset 29, Samson saisit les deux colonnes du milieu. On pourrait dire que ces deux colonnes représentent la volonté et l'intelligence de l'homme. Le temple de Salomon avait aussi deux colonnes, mais là c'était en témoignage, Jachin et Boaz. Jachin, il établit, c'est Dieu qui établit. Et Boaz veut dire, en lui est ma force. Et ça c'est une autre chose. Ça parle donc du Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, glorifié, exalté, c'est lui qui établit, c'est en lui qui est toute notre force. Ici, ce temple était, ces deux colonnes représentaient la force de l'ennemi, la propre volonté de l'homme, l'intelligence de l'homme. Et tout doit être mis de côté par l'homme de Dieu ici. Et l'effet est que là où sa force n'était plus là, que la force de Dieu puisse se manifester. Et j'aimerais suggérer aussi que c'est un élément de la foi. Est-ce que vous êtes surpris de trouver Samson dans le livre dans la liste d'Hébreux 11? Il est là. Hébreux 11 parle de Samson. Ça m'a frappé de voir ça parce que, en lisant cette histoire-là, on dirait, mais ça vaut pas la peine, là. Un tel homme avec une telle marche, un tel déclin spirituel. Vous voyez, ici, c'est la foi. Peut-être il y avait d'autres occasions où on voit la foi de Samson, mais au moins ici, on voit sa foi. Et il est dirigé par la foi maintenant, hein, la vue de la foi. Et c'est pour ça qu'il est dans cette liste-là, des héros de la foi. Le Seigneur pose une question aux disciples dans Luc 19, à la fin où le Fils de l'homme va revenir. On est ici à la fin. Nous sommes aussi spirituellement à la fin, les jours de la fin de notre dispensation. Est-ce qu'il y aura de la foi? Le Seigneur ne pose pas cette question-là. Est-ce qu'il y aura des croyants? Il y en a en masse. Ça, c'est pas la question. Il y a beaucoup de croyants. Mais, est-ce qu'il y a la foi? Pour résister à l'ennemi, pour résister les ruses de l'ennemi, il faut la foi. Et on voit cette foi maintenant dans Samson. Donc, malgré le jour de petites choses, il cherche la force dans la foi, pas en lui-même, ou dans un groupe, ou quoi que ce soit. Et là, on pourrait dire, à la fin, après tous ces débâcles, toutes ces catastrophes dans sa vie, tous ces manques, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est mourir. Et puis, c'est justement dans cette chose-là, sa mort, qu'il a la victoire, une victoire éminente. Son succès, pour utiliser ce mot-là, le succès le plus grand est là, et sur tout le peuple qui y était. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Donc, sa septième victoire est la plus grande victoire, et la plus grande force est manifestée dans la plus grande faiblesse. C'est ça le point. Ici, on voit la plus grande faiblesse de Samson. C'est là où la force de Dieu se manifeste d'une façon éminente. On le voit aussi dans 2 Corinthiens 12. Et j'avais marqué un verset, je veux juste lire ça pour conclure. Dans Zacharie 9, verset 6, il y a un verset que je voulais juste citer. Dieu parle là de Gaza, d'Écron, ok, Ascalon, verset 5. Gaza, Écron, Ascalon, verset 6, Asdod. Puis Dieu dit, je détruirai l'orgueil des Philistins. C'est Dieu qui travaille ici. Dieu veut détruire l'orgueil des Philistins. Donc tous ces cinq rois, sont mis de côté et détruits par Dieu. Il se sert ici de cet instrument qu'il s'était choisi, malgré toutes ses faiblesses. Et on voit que l'Esprit fait la conclusion, la deuxième conclusion maintenant. Et puis, ça nous montre aussi que on a affaire avec un serviteur restauré ici. Au moment où, après les plus grandes victoires, là, dans sa vie, l'Esprit dit, Samson jugea Israël au jour des Philistins 20 ans. Ici, après cette défaite, mais après cette restauration, l'Esprit de Dieu dit, il avait jugé Israël 20 ans. Donc, l'Esprit de Dieu le reconnaît encore. Et le verset 31 nous parle de la place où il était enterré. Là où l'Esprit de Dieu avait commencé à le pousser, à l'instruire à l'école de Dieu, c'est là où il est enterré, entre Tsora et Estaol. Donc ici, on a terminé cette histoire des juges, et nous sommes, pour parler dans le langage d'Apocalypse 2 et 3, dans les jours de l'Odyssée ici. Mais même là, on voit donc que Dieu est là avec toute sa force pour aider. Il faut pas oublier ça. S'il y a la reconnaissance de notre faiblesse et qu'on se jette entièrement sur lui en utilisant les ressources qui sont en lui. Donc, peut-être il y a encore des choses à ajouter ou à discuter là.